Mathieu Delahousse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter à l'Obs, vous publiez Le prix de nos larmes aux éditions de l'Observatoire. Une enquête sur les montants versés aux victimes d'attentats en France. Qu'est-ce qui vous en a donné l'idée ?
L'idée est arrivée par le registre de l'émotion au tout départ, puisque ce sont des histoires qu'on me racontait. Je suis, comme beaucoup de journalistes judiciaires, à devoir suivre l'intégralité ou quasiment toutes les parties des procès terroristes qui se déroulent depuis plusieurs années maintenant en France, et notamment celui du vendredi 13 novembre 2015, qui nous occupe beaucoup et qui mobilise beaucoup d'énergie et de questions. Et en rencontrant des victimes, au fur et à mesure de mes enquêtes, de mes contacts, de façon informelle, il y avait beaucoup de choses qui étaient dites, mais pour les résumer en une seule, c'était cet extrait d'une chanson d'Alain Souchon. Elle disait « Il faut voir comment on nous parle ». Et je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Et en fait, ce qu'elle voulait dire, c'était que dans le processus indemnitaire, elle avait le sentiment qu'on les considérait comme des dégâts des eaux dans les assurances, comme des deuils, qui appartenaient à la nation, mais qui étaient pas très graves. C'était évidemment un sentiment faux en grande partie, mais aussi un sentiment de ressenti extrêmement vif et très très douloureux, avec une incompréhension totale entre un système d'indemnisation extraordinaire et un ressenti terrifiant qui se traduit en fait la demande de justice insatiable de toutes ces victimes. Et les choses ensuite se sont mécaniquement faites, c'est-à-dire que j'ai commencé à les rencontrer, à me rendre dans le tribunal où tout ça a été jugé, et j'ai passé 2 années à rencontrer des gens à la fois formidable, mais dans une détresse terrible, et surtout à décrire un processus que je ne connaissais pas.
Oui, on apprend avec vous donc que cette juridiction de l'indemnisation se réunit un jeudi matin sur deux. C'est une juridiction à part, très peu connue.
Elle est très récente, elle a été créée en 2009, parce qu'en réalité, l'indemnisation des victimes du terrorisme est née en 86 en France, sous l'impulsion d'un personnage qui vient de disparaître, c'est Françoise Rudetsky. Et tout ça, aujourd'hui, est très codifié, très administratif, mais régi uniquement par le code des assurances. Et c'est un peu le vice de forme et le vice d'origine de tout ça, c'est que tout ça est fait de façon très administrative, plutôt efficace, mais avec souvent un manque d'humanité et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incompréhension. Et la justice judiciaire, sous l'impulsion de réformateurs à la suite des attentats, a décidé de créer ce juge particulier qui apporte en fait le regard du nom, au nom du peuple français, sur cette indemnisation. Et c'est un travail très compliqué parce qu'il faut indemniser le préjudice matériel, le préjudice physique, mais aussi ce préjudice particulier des victimes du terrorisme. Et toutes les histoires sont très différentes. Et on entre effectivement dans un monde secret qui est assez troublant.
Oui, des histoires vraiment différentes. Qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix de ces personnes ?
Alors, le choix des personnes m'a été guidé par leur variété et l'a priori que j'avais sur elles. La première personne que je rencontre, avant même d'aller d'ailleurs dans cette juridiction, c'est l'une des victimes qui a le plus subi dans sa chair et dans son cœur l'attentat de Nice le 14 juillet 2016, puisque à la fois son fils, sa mère, son beau-père, sa sœur vont être victimes de l'attentat. Ils étaient partis en famille pour voir ce feu d'artifice. Et elle va revenir avec un...
Ils étaient 7, ils sont revenus à 3.
Absolument. Un fils en plus très handicapé, un autre disparu. Donc c'est une douleur incommensurable et cette femme est debout. Elle est une leçon de vie constituée. Elle dit « L'argent ne réparera rien, il ne faut pas se plaindre, je continue. » En plus, cette femme, je l'interroge pendant la crise sanitaire du Covid, elle travaille en EHPAD. Elle est très courageuse et elle dit « Ne nous jugez pas, victime, d'accord ? Vous ne allez pas me dire que je dois être plus triste que les autres, moins triste que les autres. » Et au contraire, je rencontre des gens du Bataclan qui ont pu quitter les lieux au bout de 30 secondes et qui ne supportent plus aujourd'hui d'être dans un lieu fermé, qui ne supportent plus le bruit de Paris. Et toutes ces douleurs ne peuvent pas être jugées selon une grille ou selon des a priori. Et en fait, on rentre par le biais d'une lecture très financière, très administrative, dans tous les tourments de l'âme humaine par rapport au deuil, par rapport à la douleur, par rapport à la peur, par rapport à l'avenir. Et c'est une fresque passionnante parce qu'elle nous interroge aussi sur nous-mêmes, bien évidemment, sur la façon dont on peut être réparé. Et par ailleurs, en termes de documentation pure, jamais personne n'avait pu rentrer dans cette juridiction. Et quand j'ai commencé en fait à travailler là-dessus, je n'ai pas pu m'arrêter parce que je le devais aux gens que j'avais interrogés et je le devais aussi à tous ceux qui suivent ces grands procès historiques très importants avec beaucoup de journalistes, beaucoup d'avocats, à cette petite salle effectivement du 6e étage un jeudi sur deux où se joue autre chose mais qui est l'intimité de la nation, qui est l'intimité par le biais d'un citoyen frappé parce qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment.
Alors il y a une sorte de grille de barème d'indemnisation, on va dire de base, qui est complètement adaptée à chaque cas.
Oui, on calcule en fait, par une grille qui est appelée la nomenclature d'Intillac, tout ce qui a été bouleversé par l'attentat. Alors évidemment, quand on est le père d'un enfant endeuillé, il y a une somme qui est fixée. Cette somme varie selon la résidence principale, pas la résidence principale. Donc pour les personnes endeuillées, c'est très difficile à comprendre. Et puis pour les blessures physiques, les préjudices économiques, tout ça aussi se calcule, hein, avec des déficits fonctionnels, temporels ou permanents, etc. Et on arrive finalement à une addition finale. La réalité est que cette addition, elle est parfois négociable, puisque le fonds de garantie souligne auprès des requérants qu'ils ont la possibilité de faire un appel sur telle ou telle chose, ou parfois on conteste leur douleur. Et cette douleur contestée est une attaque supplémentaire sur les requérants qu'il faut régler. On ne peut pas rester sur un système où quelqu'un qui vient dire « mon fils était au Bataclan, il y est mort, il n'a pas pu faire ses études, et par ailleurs, moi j'ai fait une dépression », de lui dire « ah bah oui, mais enfin, votre fils, il n'était plus en résidence principale chez vous, vous n'êtes pas dans la catégorie principale ». Il faut régler ça par des mots, par de l'humanité, par de la bienveillance. Et ça, c'est un travail qui a mis du temps à arriver et qui est en train d'arriver progressivement, parce que cette victimisation secondaire, moi, quand je l'ai approchée, elle m'était insupportable. J'ai rencontré des gens qui finissaient par haïr plus le système administratif qui était censé les appuyer et les sauver que ceux qui avaient provoqué leur péril en leur tirant dessus à la Kalachnikov.
Vous avez dit tout à l'heure que c'était difficile de se sentir traité comme un dégât des eaux. On voit aussi qu'il y a un ressentiment de certains qui se sentent obligés de prendre un avocat pour faire valoir leur droit à l'indemnisation, alors que Salah Abdeslam a, lui, un avocat commis d'office.
Oui, c'est l'une des scènes qui m'a le plus étonné avec ces victimes, c'est qu'on est dans un système très sophistiqué, avec beaucoup de droits pour tout le monde. On a la grande chance en France d'avoir un droit pour chacun, le droit de la défense pour Salah Abdeslam quand il est arrêté, d'avoir des avocats et d'avoir une représentation, et aussi le droit des victimes pour être représentées et pour avoir une indemnisation. Simplement, la femme qui me raconte tout ça est quelqu'un qui est très lettré, qui a fait beaucoup d'études, mais elle ne connaissait pas la justice et elle ne comprend pas pourquoi tous les avocats se battent pour être l'avocat de Salah Abdeslam et pourquoi elle n'arrive pas, le jour où elle me parle, à en trouver un qui la prenne en charge. Et en fait, il y a cette espèce de malentendu démocratique qui est assez terrifiant, parce que ça interroge, au-delà du cas individuel de cette dame, la place des victimes dans notre système judiciaire. Et ça interroge évidemment en creux le grand procès qu'on vient de vivre. Est-ce qu'on interroge uniquement les accusés et qu'on est uniquement dans la sanction, ou est-ce qu'on est dans la réparation? Et ce procès, qui va se terminer de façon imminente, a montré que la réflexion ne pouvait pas se faire de façon indépendante. On peut pas avoir uniquement une justice orientée vers les coupables ou les futurs coupables, et puis les innocents leur disent « bon ben vous étiez là, on va vous donner de l'argent, beaucoup d'argent parfois, mais vous n'êtes pas dans le processus ». Il faut que tout ça se marie et trouve une symbolique très forte. Le procès en lui-même a réussi à avoir ce chemin d'union, ce chemin de compréhension pour ceux qui y sont assistés. Les ressentiments pour les victimes du terrorisme qui finissaient par haïr la main qui était venue les secourir et haïr la main qui était venue les soutenir financièrement est une incompréhension démocratique qui est révoltante, parce que c'est vraiment quelque chose qui a été mal expliqué et qui est très dur à entendre.
En matière d'indemnisation, les avocats prennent tous 10%.
Alors les avocats prennent des parts variables de l'argent qui est versé. Effectivement, ça peut aller de 0 pour certaines d'entre elles à 17 ou 18, ce qui est considérable pour d'autres. Ça pose la question du business des victimes. Les avocats ont un vrai rôle à jouer. Ils le jouent pour la plupart tous très bien. Mais effectivement, moi je ne veux juger personne. Moi je suis à ma place et je ne juge pas les avocats. Simplement, j'ai des victimes qui me disent « Nous, on a été choqués de savoir qu'il y avait ce montant qui leur était alloué en plus à l'américaine. Elles ne comprenaient pas. » Et là encore, je pense qu'il y a une clarté à trouver, et aujourd'hui c'est une clarté qui n'existe pas, et c'est pour ça que le chiffre n'est pas stable. C'est à la tête du client et à la tête de l'avocat, et ça fait aussi partie des pistes de réforme que j'essaie d'esquisser dans le livre pour qu'il puisse servir au moins à ça.
Mathieu Delahousse, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Le prix de nos larmes, paru aux éditions de l'Observatoire.